Saint-Bernard, en tout cas, c'est certainement en Amérique que c'est le plus visible. Je ne sais pas si vous suivez la littérature américaine, à quel point les personnages des romans américains sont enjolivés, parfois juste dans des expressions qui sont passées dans le slang américain. Je reviens en tout cas au sujet. Voilà que Moïse est installé au palais du Pharaon, et puis il est installé par le Pharaon comme responsable des camps de travail des Hébreux. Alors on prend le texte au verset 11 du chapitre 2. Je lis. Vaïli, Vaïli, Maïm. Et il arriva, en ces jours-là, en ces temps-là, Vaïdal Moshe, Moïse grandit, Vaïetse et l'Achab, et il sortit vers ses frères. Alors faites bien attention. Pour nous qui connaissons la suite, nous avons tendance à lire Vaïetse et l'Echav, il sortit vers ses frères, les Hébreux. Parce que nous savons que Moïse est Hébreu et que donc ses frères, c'est les Hébreux. Mais objectivement, on ne sait pas du tout qui sont ses frères. On va savoir qui sont ses frères à la fin du verset. Je voudrais aller lentement dans la lecture de ce verset pour que ce soit bien clair. Parce que là, le piège, c'est la familiarité de lecture. Comme nous connaissons la suite, nous sommes souvent empêchés de découvrir ce que dans l'ordre des versets nous dévoile. Jusque-là, qu'est-ce que le lecteur sait? Il sait que Moïse est un Hébreu. Mais il sait d'autre part que Moïse est le chef de la civilisation égyptienne. Alors, qui sont ses frères? Je vous donnerai un exemple qui est un exemple de notre génération. Par exemple, pour les Juifs français. Et d'ailleurs, c'est un problème qui angoisse encore et qui inquiète beaucoup les Juifs de diaspora vivant en France. Mais je suppose que la majorité d'entre nous ont vécu déjà ce problème. Eh bien, lorsque nous vivions en France, et si on nous demandait, mais vous êtes quoi? On avait tendance de répondre, nous sommes français. Et puis on nous demandait, vous êtes français? On est juifs. Mais alors, il y a deux sortes de frères, il y a les français et les juifs. C'est la même chose pour l'Égypte, pour Moïse en Égypte. Qui sont ses frères? Il faut bien comprendre, en sincérité absolue, Moïse peut considérer les Égyptiens comme ses frères, comme il doit considérer les Hébreux comme ses frères. Pour le moment, il n'a pas choisi. Est-ce que c'est clair? Je vais inventer un apologue. Je ne me souviens plus si c'est moi qui l'ai inventé ou si je l'ai entendu. C'est un... On appelle un champ de pommes, pommeré. Enfin, un verger de pommes. Et puis il y a une graine de sapin qui est tombée là-dedans, et puis un sapin qui a grandi au milieu des pommiers. Alors, le sapin, à force de voir des pommiers autour de lui, il s'est pris pour un pommier. Alors, un jour, ses collègues pommiers lui ont demandé, mais enfin, toi, qu'est-ce que tu es? Il dit, mais je suis un pommier. Il dit, mais tu ressembles à un sapin. Ah, mais c'est que je suis un sapin. Alors, il faut choisir, tu es un pommier ou un sapin? Comme c'est la veille de Noël, c'était très dangereux, parce qu'ils ont besoin de sapin. Et en fin de compte, c'est vrai que une pomme, c'est une pomme, que ce soit une pomme de pommier, une pomme de sapin, une pomme de pin, c'est une pomme. Un homme, c'est un homme. Mais enfin, un sapin, c'est pas un pommier, un pommier, c'est pas un pommier. Les juifs français, très sincèrement, ont dit, nous sommes français. Mais très sincèrement aussi, ils ont dit, mais nous sommes juifs. Alors ça, c'est le drame de l'identité de Moïse. Si on s'en sort pas, c'est la schizophrénie. C'est un thème très important, très, très passionnant d'ailleurs pour les sociologues qui n'arrivent pas à cerner ce problème. Comment cette manière d'être homme est capable d'être elle-même et n'importe quelle autre manière d'être homme à la fois de façon totale et entière et sans réticence. Cette identité juive qui peut être n'importe qui d'autre en même temps, mais de cette manière-là, c'est-à-dire totalement égyptien, totalement hébreu. Alors, je pense que c'est clair comment ça va se déclencher dans ce verset. Il va vers ses frères, mais qui sont ses frères? On continue. Bayar Bessiblotam. Et il vit Sevel. En hébreu moderne, Sevel, c'est la souffrance. Mais Siblot, les fardeaux. Un saval, c'est un, comment dire en français, un portefeuille. Et là aussi, le Midrash continue. là, l'analyse est plus difficile. Enfin, je pense que l'idée peut être claire. Il y a un contrat de travail entre la civilisation et les étrangers qui travaillent dans la civilisation en question. Alors, il y a les maîtres et les esclaves. Mais les deux ont une tâche dans ce contrat de travail. Il a vu les sivlotes des Égyptiens et les sivlotes des Hébreux. Il y a les patrons et les ouvriers. Mais les deux sont occupés à leurs propres tâches. Alors il a considéré, il a diagnostiqué les uns et les autres. Et voilà ce qu'il découvre. Il va y avoir Ish Mitzri et il voit un homme égyptien frappant un homme hébreu de ses frères. Vous voyez que c'est à la fin du verset qu'il a choisi que ses frères, c'est les Hébreux. C'est clair. Et alors là, l'idée qui apparaît est très importante. C'est pas du tout pour des raisons d'ordre culturel que Moïse a choisi la culture hébraïque plutôt que la culture égyptienne. C'est pour des raisons d'ordre moral. Vous voyez ce que dit le verset. Il a vu un homme égyptien frappant un homme hébreu de ses frères. Je dirais un peu en anticipant que beaucoup de juifs sont revenus au judaïsme de notre temps par ce même diagnostic, en tout cas par un diagnostic analogue. Ils ont voulu être solidaires des persécutés et pas des persécuteurs. Au-delà et a priori de la différence qu'il peut y avoir entre être goy européen ou être juif. Vous avez compris ce que je dis ? Je crois que c'est le cas exemplaire de Jules Isaac, par exemple. Jules Isaac était un très grand Français et très assimilé, mais il a réagi au drame de la persécution juive à un niveau moral d'abord, et ensuite ça l'a mené à une identification qui n'a pas été jusqu'au bout, mais enfin qui était très sérieuse, une identification avec la communauté juive, alors qu'il était complètement en dehors. Je crois qu'il a été beaucoup aidé par son amitié avec Edmond Fleck, qui lui était dans la communauté juive. C'était la communauté libérale de Copernic, en fait c'est quand même la communauté juive. Par rapport à Jules Isaac, sa communauté à lui c'était l'université française. Vous voyez, ce diagnostic est très important. Qu'est-ce qui a mené Moïse à choisir ? Eh bien, ce n'est pas du tout une réaction de type culturel. Donc, je n'ai pas ajouté religieuse, nationale, etc. C'est une réaction de type moral. Si les Égyptiens n'étaient pas tombés à ce niveau de barbarie, eh bien, peut-être, on ne fait jamais l'histoire à l'envers, peut-être que l'histoire serait passée par la civilisation égyptienne. Mais voilà. C'est l'échec d'une civilisation devenue totalitaire. Et alors, le geste de Moïse va faire basculer l'histoire à travers les Hébreux et va renvoyer l'Égypte dans les sables. Et c'est ce qui s'est passé. En fin de compte, nous sommes très privilégiés, si longtemps après, de pouvoir diagnostiquer cela de manière facile. Mais imaginons que nous étions contemporains de cette époque. Comment comprendre qu'une petite poignée d'esclaves, avec à sa tête un transfuge du palais royal, allait faire basculer l'histoire de manière aussi radicale. Alors oui, c'est très important, je dis ça pour ceux qui suivent le cours général d'histoire depuis le début, et comment le critère moral prime tous les autres critères. Le Midrash dit, oui, il a choisi être avec les frappés et pas avec les frappants. Mais et parce qu'il a choisi à être avec les frappés et avec les frappants, il a frappé le frappant, pas s'arrêter au milieu. Et il n'a pas opté pour une solution suicidaire. Il a opté pour une solution active de destruction de l'Égypte. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. C'est Moïse qui a détruit l'Égypte. Et voilà donc la première scène. Ici, c'est un moment très important. Moïse a, comment dire, s'est déconnecté, a désolidarisé son destin, sa destinée, de la destinée de l'Égypte. Et alors là, il est en danger par rapport à l'Égypte. Si le pharaon apprend que Moïse a pris parti pour les Hébreux, c'est très grave pour lui. Vous allez voir pourquoi j'ai signalé cela tout de suite. Deuxième scène. Bon, je lis d'abord le verset 12, qui fait partie de la première scène. Vaïfet Komako, il se tourna de ça et de là. Vayar Kienich, il vu qu'il n'y avait personne. Vayar Edamitsri, il frappa l'Égyptien. Vayit Menehu Nahol, il l'enfouit dans le sable. Mais la forme même du verset est très importante. Ça veut dire que le fait d'avoir pris parti pour l'Hébreu contre l'Égyptien va enfouir cette civilisation égyptienne dans le sable. Et je vous lirai ça à un autre niveau. Vous savez que le mot de chol en hébreu, ça signifie le sable, ça signifie ce qui est profane. C'est-à-dire la civilisation égyptienne de ce temps-là, c'est une civilisation du sacré. Et alors, elle va entrer dans le profane. C'est-à-dire la sainteté va passer ailleurs. Deuxième scène. Vayotse, Vayomashé. Il sortit le deuxième jour. Veineshne Anashim Ivrim. Et voici deux hommes hébreux, Nitsim, se querellant. La deuxième scène est un contraste absolu avec la première. Dans la première, c'est clair. L'Égyptien a tort et c'est l'Hébreu qui est persécuté. Mais voilà que le lendemain, il s'aperçoit que les Hébreux entre eux se querellent. Vayomer la Racha, il dit. Au méchant, le Midrash explique comment il savait que c'était un des deux, lequel des deux était en son temps. Il dit, c'est celui qui avait la main levée. L'amatakelecha, pourquoi frappais-tu ton prochain? Mais c'est ce même Moïse qui va être chargé du message que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et alors, réponse de l'hébreu en question, mi samcha leish sarve shofet alim. Qui t'a placé comme prince et juge sur nous? Alléroge ni à ta Omer, est-ce que tu vas me tuer, Kacher Akta et comme tu as tué l'Égyptien? Vaïra Moshe, Vaïomar, et Moïse eut peur, et il dit, Achenodar Davar, ainsi la chose est connue. Alors, l'étonnement ici, c'est que Moïse est tout puissant. De quoi il a peur? Si c'est pas qu'il a tué un Égyptien, c'est qu'il a pris parti pour les morts. Et donc, le pshat du verset, c'est la chose est connue. On sait que j'ai pris parti pour les Hébreux contre les Égyptiens. Mais il risque d'être dénoncé par les Hébreux, par un des Hébreux lui-même. La disque du Rashi. Achel Nodad apparaît, c'est la chose est connue. On prend sur Rashi. Kemash Mao, il faut comprendre le sens direct. Le sens direct, c'est que ce que je viens de dire, que Moïse a pris parti pour l'Hébreu contre l'Égyptien. Au Midrash, mais le Midrash explique. Nodar li adavar, maintenant je comprends. Chez Haïti Tamé, cette chose qui m'étonnait tellement. Chez Haïti Tamé Alam, ma hatu Israël, mikol shivim mumot. En quoi Israël est plus coupable que les 70 nations, liyot nirdim barbodat parer. Pour être tellement poursuivi par la persécution. Aval Royani, Shemron Nekar, mais je vois qu'il le mérite. Vous avez vu, ce Rachid est terrible. Qu'est-ce que dit Moïse? J'avais jamais compris pourquoi ce peuple est si malheureux. Et maintenant je comprends. Parce qu'il est censé porter le message du frappé contre le frappant, mais il se frappe entre eux. Tout simplement. C'est la sinat hinam. Que tous les maîtres du Talmud vont mettre en évidence comme étant la cause de tous les maux d'Israël. Israël qui est chargé de porter le message de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il semble qu'ils le comprennent de la manière suivante « Tu aimeras ton prochain sauf juif comme toi-même ». Et je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Et voilà, ce qu'il faut dévoiler, je profite de votre incompréhension pour ouvrir une parenthèse, ce qu'il faut dévoiler, c'est cela. C'est que il y a un danger de la haine gratuite chez les juifs entre eux qui est beaucoup plus grand que dans n'importe quelle autre société. Et le fait de se masquer cela, parce que du point de vue de l'idéal, il est évident que l'idéal de la société juive, c'est l'idéal de fraternité, est extrêmement dangereux. C'est ce que Moïse dévoile. Il a pris parti pour l'hébreu parce que l'hébreu était frappé par l'égyptien. Mais le lendemain, il voit que les hébreux se frappent entre eux. Alors quand nous avons le droit, il est déçu déjà de l'Égypte, mais il est déçu d'Israël, il s'enfuit. Ça, je vais revenir sur ce point un peu plus en détail tout à l'heure. Alors je vais vous raconter un commentaire que j'ai lu il y a très longtemps. Je crois que je l'ai cité l'année dernière ou l'année d'avant. Un rabbin américain, après la Shoah, qui a écrit un commentaire du Talmud. D'ailleurs, dans ce commentaire, il y avait un enseignement suivant. Et voilà, il y a eu deux calomnies qui ont accompagné Israël pendant toute son histoire, en tout cas de ces 2000 ans de l'exil du dernier régime. D'abord, une première calomnie, c'est qu'Israël est un peuple traître à sa propre foi. C'est pas vrai. Il n'y a pas de peuple au monde qui est resté le plus fidèle à sa foi. Nous avons traversé 4000 ans d'histoire et nous sommes revenus chez nous, la Torah en bandoulière, si j'ose dire. Parce que ceux qui connaissent les détails de l'histoire juive savent que ce n'est pas la faute des goïms si on a réussi à rester attaché à la Torah. Les goïms nous ont inventé toutes les stratégies possibles et imaginables pour nous détacher de la Torah. Et puis, ils n'ont pas réussi. Donc, ça veut dire qu'il y a un attachement à la Torah énorme dans ce peuple-là. N'importe quel autre peuple, il y a longtemps, serait complètement détaché de sa propre identité spirituelle et religieuse. Je me rappelle, juste après la guerre, j'avais été invité à visiter l'université dominicaine dans la banlieue parisienne. Je ne sais pas si elle existe encore. C'était l'université du Sauchoir, ça me dit quelque chose. C'était la grande université des Dominicains. J'avais été reçu là-bas, et puis c'est là-bas que j'ai connu le père Dubois, d'ailleurs. Il était un tout jeune homme, habillé avec sa robe dominicaine en blanc. À l'époque, il était très sympathique. le bibliothécaire s'appelait Dominique, comme par hasard. Après, il m'a avoué que c'était un juif converti, d'ailleurs. Mais alors, il m'a fait visiter la bibliothèque des Dominicains. C'était impressionnant. Vous savez, vous connaissez l'expression « un travail de Dominicain ». Non, c'est de Bénédictin, je pense. Et puis, il disait, quand tu sais, les articles, les archives, il m'a dit, je peux vous assurer que si les Juifs existent encore, c'est pas la faute des Dominicains. Bon. Et c'est vrai. En première calomnie, un peuple infidèle à son identité. C'est vrai qu'il y a des Juifs infidèles à son identité, mais le peuple d'Israël n'a jamais été infidèle. En tant que collectivité. Deuxième calomnie, les Juifs se tiennent entre eux, comme on dit dans la rue juive. Et ça aussi, c'était faux, cette calomnie. Et alors, ce rabbin explique ça de la manière suivante. Nous avons un enseignement dans le Talmud qui dit que la destruction, l'exil qui a suivi la destruction du premier temple, a un temps prévu, un temps connu, c'était 70 ans, en fait 120 ans, mais 70 ans, parce que les fautes qui ont causé la destruction du premier temple ont été connues. Quelles étaient ces fautes? L'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Alors que les fautes qui ont causé la destruction du deuxième temple n'étant pas connues, la longueur de l'exil n'est pas connue. Et il objecte lui-même, il reconnaît la faute qui a causé la destruction du deuxième temple, c'est la haine gratuite. Et donc, ça n'était pas connu, elle n'était pas dévoilée. Les goïms ne savaient pas que les juifs s'aimaient pas entre eux. Tu as compris comment ça se produit? Alors il dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait venir la persécution. Alors dans la persécution, les juifs ont été solidaires, et donc l'exil a pris fin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une explication à laquelle je n'adhère pas totalement, mais qui est terrible. Ça veut dire qu'il a fallu, pour que ça se dévoile, il a fallu, effectivement, je me souviens, moi j'ai vécu dans la Shoah, pendant les temps de persécution, il y a une solidarité entre les Juifs, quelque chose de faramineux, à tel point qu'il y avait aussi des goïms solidaires des Juifs, en plus. Mais tout ça a disparu. Juste après, il reste des confréries, il reste des mouvements d'action sociale juive et qui sont exemplaires, mais c'est des cas particuliers. Ça s'est passé aussi dans la société israélienne comme ça. J'ai connu la société israélienne jusqu'à la guerre des six jours. C'était une société solidaire de manière extraordinaire. À partir de la guerre des six jours, on s'est installé dans la jungle, les loups entre eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Alors c'est pour ça que j'ai un peu longuement parlé de cela, parce que il y a une pudeur qui fait qu'on se cache ça. Si vous vous baladez dans les Hacharim et que vous vous voyez Braque, bon, ça fait 20 ans que je suis arrivé là-bas, dans les Hacharim je suis obligé de traverser pour rentrer chez moi. Mais vous avez des affiches où les différents chefs de secte s'interpellent dans un langage dont vous n'avez aucune idée à quel point. C'est la haine totale. Et ils sont tous, chacun, des grands rabbins. Et alors c'est Niboulpé. Je ne traduis pas que c'est Niboulpé, c'est pire que de la grossièreté. Et il a sinatrinam, quelque chose d'épouvantable. Et il faut dévoiler ce problème. Si vous lisez les journaux Kharedim du vendredi, vous allez voir comment ils se traitent les uns les autres dans ces sectes-là. Ça, c'est rien qu'un exemple, mais de façon générale, lorsque la rivalité s'installe entre les frères, Alors, à cet instant, voilà ce qui se passe chez Moïse. Moïse, je vais vous décrire ça de manière phénoménologique. Ici. Imaginez la déception de la société égyptienne. Alors, il est tout à fait dans la situation où se sont trouvés les nouveaux philosophes il y a quelques années, en France par exemple, et la majorité d'entre eux étaient des juifs quand même, tous étaient des juifs, déçus du mouvement socialiste. Vous vous rappelez de ça, hein? Et alors il est déçu de la situation égyptienne. La tendance naturelle serait de chercher dans la société juive le contrepoint, l'idéal. Il rentre dans la société juive, imaginez-le, la réunion du consistoire. Alors c'est la deuxième scène. Vous savez ce qui se passe au consistoire depuis quelques années? Alors ça c'est la deuxième scène. Alors il est après déçu de la civilisation égyptienne, il est déçu de la société hébraïque, de la société juive, et il s'enfuit. Il va se chercher un peuple dont il sera le guide. Voilà, fin de la première scène. On va reprendre ce qui va se passer quand il s'enfuit. Mais je voulais d'abord diagnostiquer cela, c'est suffisamment clair. Vous voyez, ces deux déceptions. Je crois que ça explique un peu ce phénomène que j'ai appelé le phénomène des nouveaux philosophes. Vous avez dû remarquer cela. Ils ont été déçus de la société européenne, de l'idéal, de ce qu'était jusque-là l'idéal de la société européenne, l'humanisme européen, mais ils ne sont pas du tout rentrés dans la communauté juive, sauf un ou deux, parce qu'ils sont assez compétents. Les autres sont complètement assimilés. Eh bien, mais ils se cherchent. Ils cherchent, je ne veux pas citer de nom, mais enfin vous les avez en tête, ils cherchent à être les inspirateurs et les guides d'une révolution culturelle qui se passerait ailleurs. C'est en général pas en Europe qu'on cherche les modèles, en tout cas surtout pas dans la communauté juive ou en Israël. Mais c'est un peu le drame de Moïse à ce niveau-là. Vous avez remarqué cela, Ken? Eh bien, on va prendre le verset 15. Juste la suite. Vaishma paro, et le pharaon entendit, état d'abarazé, cette chose-là. Vaibakesh la arroguet Moshe, il chercha à tuer Moïse. Vaibrach Moshe mi pene paro, et Moïse s'enfuit de devant le pharaon. Vaishev beret Midian, vaishev ala ber. Il s'installa dans le pays de Midian, et il s'assit auprès du puits. Alors on peut se demander pourquoi la Torah donne ces détails de manière aussi directe. On sent que Moïse sait où il va. Alors, en m'appuyant sur le Midrash, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a dans les mots de ce verset. Voilà. On sait que Abraham a eu, après Ishmaël et Isaac, a eu d'autres enfants de Ketura, et un de ses enfants, c'est Midian, qui a fondé une civilisation d'origine abrahamique. Et puis, dans cette civilisation, il y avait un prêtre qui était Jéthro. Et le Midrash explique, d'après des péripéties que nous avons là, dont je vous donne l'essentiel, les filles de Jéthro faisaient paître le troupeau de leur père. Le Midrash pose la question, comment il est le prêtre de cette société, il n'a pas de berger, comment ça se fait que ce sont ses filles qui sont obligées de s'occuper de ses propres troupeaux? Et il explique qu'il avait rejeté l'idolâtrie de Kabekour à Midian, et donc son peuple l'avait mis en quarantaine. Et donc c'était ses filles qui étaient obligées de s'occuper de son propre troupeau. Alors que se passe-t-il avec Jéthro? Exactement ce qui s'est passé avec Abraham. Il rejette les idoles de la société où il vivait, il est disponible pour la révélation du vrai Dieu. Donc Moïse sait où il va. Il va directement chez ce descendant d'Abraham, à partir de qui on pourrait refaire un peuple d'Israël, puisque dans la pensée de Moïse, le peuple d'Israël qui est dans l'Égypte est disqualifié. Est-ce que c'est bien clair? Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites, Ken. On verra ensuite. 40 ans après, Dieu va se révéler à Moïse pour dire non, il n'y en a pas deux de peuple d'Israël, c'est celui-là qui est en Égypte. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais on voit que pendant toute une période, il y a un blackout dans cette histoire des rapports entre Moïse et son peuple, et 40 ans, il passe chez Jéthro à Midian. Il devient le berger des troupeaux de Midian. Alors, fin du verset, il s'assit auprès du puits. Vous verrez vous-même Rachid, je vais aller un peu rapidement, parce que je vais voir un autre verset encore. Rachid nous dit, il va faire comme Jacob. Jacob arrivé auprès du puits, a rencontré Rachel. C'est avec Rachel qu'il va fonder le peuple d'Israël. Ça veut dire que la tentation de Moïse ici, c'est de fonder un nouveau peuple d'Israël à partir de la fille de Jéthro, tout simplement. Vous voyez donc, je schématise un peu, déçu de l'Égypte, déçu d'Israël en Égypte, il se cherche un ersatz. Et il va avoir tendance à le prendre dans Mikan. Au bout de 40 ans, vous allez prendre le verset. Le verset 21 dit Vayoel Moshe, et Moïse accepta la chevet et Taïch de résider chez l'homme, cet homme c'est Jéthro, Vaïten et Tzipora bito le Moshe, et il donna Tzipora, sa fille, à Moïse. Vatel et Ben, un enfantin et un fils, Vaïkra et Shemo Gershom, et il nomma son nom Gershom, qui ama. Car il avait dit, Géraïti, j'ai été étranger, Béret Nochria, dans un pays étranger. C'est-à-dire, lorsque Moïse diagnostique qu'il est étranger à l'Égypte et à Midian, alors Dieu se révèle à lui, c'est la vision du buisson dans le sud. Est-ce que c'est clair? Oui, il y a une identification par filiation qui fait que, et c'est là que commence la révélation à Moïse. Jusque-là, il n'y a aucune révélation. Tout ce qu'il avait fait, c'est de sa propre initiative. Lorsque Moïse diagnostique qu'il est étranger chez les autres, alors c'est là que Dieu se révèle à lui pour le charger de la mission de sauver Israël. C'est là où je voulais en arriver essentiellement. L'enjambement des versets montre que lorsqu'il nomme son fils Gershom, qu'il avoue qu'il est étranger ailleurs, que Dieu se révèle à lui. Et comment il se révèle à lui? Vous allez prendre le verset 6. Chapitre 3. Chapitre 3, verset 6. Voilà comment Dieu se révèle à lui. Et c'est là que nous allons avoir ce thème de l'identification de Moïse. Vayomer, et il lui dit, Anochi Elohe Abicha, je suis le Dieu de ton père. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Le Midrash intervient dans ce verset, il dit, mais Abraham, ce n'était pas son père, c'était son ancêtre, mais ce n'était pas son père. Le Midrash explique ça comme ça. Je vais vous le lire, j'ai apporté mon Midrash, je vous demande une minute que je retrouve la page. C'est l'enseignement de Rabbi Yoshua Cohen qui dit ceci. Peshaach et Nigla Kadosh Baruch Hu al Moshe. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Tiron haya Moshe la Nehua. Moïse était un apprenti dans la prophétie. Vous connaissez le mot de Tiron. On emploie dans l'armée pour dire hein, ça s'appelle, en français ça s'appelait un bleu, je crois. Les gens qui font leur classe. Amar Baruch Hu, Dieu s'est dit, Imnigle Anirala Bekol Gadol, Anime Bato. Si je me révèle à lui avec une voix forte, je vais l'épouvanter. Bekol Namour, avec une voix faible, Bosero à la Neboa. Il va s'écarter de la Neboa, de la prophétie. Mahasa, qu'a-t-il fait? Il a pris la voix de son père. Oui, lorsque Moïse reconnaît sa filiation avec son père, alors Dieu peut se révéler à lui. Est-ce que c'est clair la ligne de lecture? C'est-à-dire, Moïse a été soumis à ce risque de perdition d'identité en Égypte, soumis à cette tentation de chercher un remplaçant de la société d'Israël, mais lorsqu'il nomme son nom, le nom de son fils, de l'aveu, qu'il est étranger chez les autres, alors Dieu se révèle à lui avec la voix de son père. C'est cette... je cherche un mot en français, mais vous allez comprendre l'idée, cette filiation de Moïse à sa nation, qui commence par son père, qui fait que Moïse sera chargé de prendre la tête d'Israël. Vous allez vous distribuer ça d'ailleurs. Pendant qu'on vous distribue ça, tiens, divise-le en deux ou trois fois. Pendant qu'on distribue ça, je vais vous donner une illustration de cela qui me semble importante. C'est une question que le Maharal se pose. Et le Maharal, dans un livre qui s'appelle Tiferet Israël, se pose la question suivante. Rapidement, s'il vous plaît. Se pose la question suivante. Pourquoi la Torah n'est pas révélée au début de l'histoire de l'humanité? Et le Maharal répond qu'il faut que se constitue une nation qui soit capable de recevoir la Torah à titre de collectivité. Parce que de ce qui caractérise le judaïsme de la Torah par rapport à toute autre religion, c'est qu'il ne s'agit pas d'une expérience individuelle mise en commun. Suivez bien ce que je suis en train de dire là. Il s'agit d'une alliance avec une collectivité que l'individu réalise chacun à son niveau. C'est très différent le problème religieux dans le judaïsme que dans les autres religions. Quelles que soient les analogies qu'on peut avoir dans des sociétés anciennes, comme par exemple ce qui reste dans l'islam. Mais si je prends en contraste avec les religions modernes telles que le connaissent les sociétés européennes, pour les sociétés européennes, le problème religieux c'est un fait d'église, c'est-à-dire c'est une vocation individuelle que l'on met en commun dans une communauté. Alors qu'en Israël, c'est une alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Et chaque individu du peuple d'Israël, qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas, fait partie de cette alliance. Et pourquoi dans nos dialogues avec les prêtres chrétiens, on n'arrive jamais à leur faire comprendre ça. Ils en prennent acte, mais ne comprennent pas qu'un juif, même athée, c'est un juif, alors qu'un cardinal, même pieux, c'est pas un juif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Le pape y compris, d'ailleurs. Alors, c'est difficile pour eux intégrer ça, parce qu'ils sont vraiment croyants de la Bible, mais n'ont rien à voir avec le peuple juif. Tandis qu'un juif, même athée, c'est Israël. Et pour les juifs qui sont surtout de culture occidentale, ça commence aussi à être difficile à comprendre. Et j'ai une fois dit à ce sujet que un juif, c'est pas quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un en qui Dieu croit. Si vous voyez la différence. Parce que quand un juif croit qu'il croit en Dieu, nous on ne sait pas en quoi il croit. Il n'y a que deux qui sait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est Dieu qui a décidé de choisir l'Israël. Je veux dire, les membres du peuple d'Israël sont les hommes en qui Dieu a cru. C'est par imitation d'égoïsme que les juifs se définissent dans des critères de confession religieuse qui sont païennes. Parce que le phénomène religieux en Israël ne va pas de l'homme à Dieu, il va de Dieu à l'homme. Quand c'est l'homme qui cherche Dieu, on ne sait pas où il arrive. Il arrive en général à la sublimation de son propre être comme mythe d'idole. Le dieu d'égoïsme, c'est le goy à l'échelle du parfait. Chacun a son image. Je ne sais pas si c'est clair ce que. Et quand les juifs tombent dans ce travers, ils fabriquent des idoles juives. Et ils bâtissent ça du nom de Dieu d'Israël. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est exactement le même. C'est Dieu qui se révèle à Israël pour lui dire c'est toi, c'est moi qui te parle à toi. Et ça ne veut pas dire que les juifs ne connaissent pas l'expérience religieuse qui va de l'homme à Dieu. Mais elle reste privée. C'est l'affaire privée de chacun. Ça ne fait pas partie de l'expérience de la communauté. Parce que l'expérience de la communauté, c'est l'expérience de la relation entre Dieu et cette communauté. La manière dont chacun, dans sa vie intérieure, dans sa vie spirituelle, se relie au Dieu d'Israël, c'est l'affaire de chacun. Vous ne trouverez jamais dans le monde juif des récits mystiques où les juifs racontent leur foi. Ça fait indécent. Ça, vous le trouvez chez les goyim. Je ne sais pas si c'est clair ce but. C'est ce que chaque fois j'explique aux intellectuels juifs qui viennent me demander un sujet de thèse. Et en général, ils sont assez cultivé pour le comprendre rapidement, que c'est exactement le contraire. Et il n'y a pas de source où les juifs racontent ce qui se passe dans leur tribu spirituelle. C'est indécent. La mystique juive, c'est privé. Alors que chez le goyim, c'est l'inverse. Quand on lisait des livres comme, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi de Loyola, ou Saint, je ne sais pas quoi, de Davila, vous lisiez des choses indécentes. Mettre leur tribu spirituelle sur la place publique. Ça ne se fait pas chez les juifs. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, il n'y a pas une mystique juive, mais elle est privée, c'est une affaire intérieure, subjective, secrète et délicate. Dès qu'un juif commence à parler de sa foi, il devient hérétique. Je ne sais pas si c'est clair ce juif-là. C'est encore pire. Alors, pour revenir au sujet, vous voyez, on a beaucoup de choses à apprendre hein, en hébreu. D'ailleurs, demandez-vous comment on dit religion en hébreu, vous aurez une surprise. Il n'y a pas de mot en hébreu pour dire religion. Il y a un mot en hébreu pour dire Israël. Alors, pour revenir au sujet, il y a le Maharal qui pose la question pourquoi la Torah n'est pas révélée au premier homme. il faut une société, parce que Dieu confie la Torah du salut du monde à une collectivité, parce qu'il s'agit du salut collectif de l'universel humain. C'est pas un individu qui peut être le modèle du salut de l'universel. C'est une collectivité, un peuple, et pas une église. Vous voyez la différence. C'est pourquoi dans le phénomène de l'assimilation, c'est quand les synagogues commencent à imiter les églises. Vous avez dû remarquer, quand les synagogues commencent à imiter les églises, elles se vident. Parce que les juifs ne se sentent plus chez eux. Et d'ailleurs, vous remarquez que les synagogues où les juifs vont, ça ne ressemble pas à des églises. Ça ressemble au chouk. Vous avez remarqué ça. Dès qu'on rentre, on reçoit un chouk. Non, il ne faut pas exagérer, mais il faut exagérer dans aucun sens. C'est le culte hiératique, ça, c'est en dehors de la sensibilité juive. Dans la synagogue, on est dans le Beit HaKnesset, on est dans la maison. Il faut bien se tenir dans la maison. Mais on est dans la maison, on n'est pas à l'annexe du cimetière. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand une synagogue commence à ressembler à une sacristie, c'est quelque chose qui tourne pas rond. Et d'ailleurs, en général, ça se vide. Il m'arrive de rentrer dans des synagogues dans différents pays du monde, et quand c'est un minyan juif traditionnel, ça vit. Mais quand c'est une église juive, c'est désert. C'est l'opéra en silence. Bien. Alors, voilà donc ce qui se passe. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Le Maharal particularise sa question en disant « On comprend qu'il fallait un peuple pour que la Torah lui soit révélée. Ben, c'est le peuple qui prend en charge l'universel, c'est pas l'individu. Mais pourquoi ça commence pas à Abraham? Pourquoi c'est pas à Abraham que la Torah est révélée ?» La réponse concerne l'identité de Moïse. Moïse s'appelle Moshe ben Amram. Amram, ça veut dire « le peuple élevé ». Alors que Abraham, c'est le père élevé. Vous voyez, Abraham a fondé le peuple, mais c'est celui qui représente le peuple qui reçoit la Torah. Ça ne veut pas dire qu'Abraham n'est pas capable de recevoir la Torah, mais ce n'est pas sa fonction en tant que père. En tant que père, il fait le peuple d'Israël. Il fait les fils d'Israël. Le maître d'Israël, c'est Moïse. Pourquoi ? Parce qu'il représente le peuple et non pas sa propre histoire. Et donc, Moshe s'appelle Moshe ben Amram. Et dans tous les midrashim, où on parle de Moïse comme étant celui qui a reçu la Torah, on l'appelle Moshe ben Amram. Vous voyez la différence, hein? Alors, nous allons lire ça. Ce texte, c'est à propos du verset, on revient un peu en arrière, lorsque, verset 19 du chapitre 2, lorsque les filles de Jéthro ont été sauvées par Moïse. Prenez le verset d'abord, verset 19 du chapitre 2, Vatomarna, et elles dirent Ish mitzri tzilanu miyad Elohim, un homme égyptien nous a sauvés des bergers. Ça va encore renforcer le diagnostic d'identité que j'ai fait tout à l'heure. Avant de voir le Midrash, je vais situer le problème qui va être étudié. Il y a un Midrash qui dit que Joseph, qui a dit de lui qu'il était hébreu, a été enterré en Eretz Israël. Alors que Moïse, qui a laissé dire de lui qu'il était égyptien, n'est pas enterré en Eretz Israël. C'est important de voir ça. Puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une histoire qui commence à Joseph et qui s'achève à Moïse. Vous voyez, Moïse, c'est un Joseph qui, en fin de compte, va laisser dire de lui qu'il est égyptien. Je crois que tous les nouveaux livres ont eu cette expérience. On vient tous d'un pays où on est désigné comme juif. Dès qu'on arrive ici, on nous désigne comme membre du pays d'où on vient. Vous allez à Ashdod, vous demandez votre chemin en français, en hébreu, on vous répond en français. Vous avez remarqué ça, à cause de l'accent, bien sûr. Mais, l'objection contre ce midrash, c'est que Moïse n'a pas dit qu'il était égyptien. Et il n'était même pas là quand les filles de Jéthro m'ont dit. Parce qu'en quoi serait plus responsable? Il y a une réponse. Quand Dieu a dicté la Torah à Moïse et qu'il lui a dicté ce verset, un homme égyptien nous a sauvés, Moïse n'a pas réagi. Il a laissé dire. Oh, je dis, au moment où il a reçu la droite. Ça veut dire, oui, jusque-là. Pendant le village. C'est exactement comme l'expérience que n'importe qui d'entre nous peut avoir quand je suis dans un milieu israélien de Tzabarim et qu'on s'adresse à moi comme si j'étais français. Alors, c'est flatteur pour ma culture française. Vatomarna, Ish Mitzrin, Sinanou, Miyadaroïm. Et elle dit, un homme égyptien nous a sauvés de la main des bergers. Vechi Mitzria et Moshe. Est-ce que Moïse était égyptien? Et là, les bouchons Mitzri, lui, son habit était égyptien et lui était hébreu. Ravacher, deuxième explication, Ish Mitzri, un homme égyptien nous a sauvés. À quoi ça ressemble? Machal, Nechad, Shenechacho, Aaron. Ça ressemble à quelqu'un que un Aaron, c'est un animal dont on m'échappe en français, un animal prédateur, le nom m'échappe. Un genre de petit tigre, il y a un nom précis, ça m'échappe. Enfin oui. Un animal sauvage qu'on trouve dans les déserts et qu'il a mordu, Veharat, la tête à la Vamaïm, alors il courait pour mettre ses pieds dans l'eau, pour rafraîchir le pied. Netana le Nahar, Vera, Tinok Echad, il a mis son pied dans le fleuve et il a vu un Tinok, il faut traduire un bébé, chez Ushoke Abamaïm, qui se noyait. Il a envoyé sa main, il l'a sauvé. Amarlo à Tinok. Alors le Tinok lui a dit, il ou les attaques va réitimer. Sans toi j'aurais été mort. Amarlo, Loani Tseltira. C'est pas moi qui t'ai sauvé. Et là, il y a Arod chez Nishachani. Mais c'est l'animal qui m'a mordu, il t'a sauvé. Barti Emeno, oui Tsilecha. Parce que je me suis enfui de lui. C'est lui qui t'a sauvé. Karamo venant titre le manger. C'est cela que les Juifs, les filles de Jétro ont dit à Moïse. Yachar kohacha sheitzaltanu min ha'aroyim. On te remercie de nous avoir sauvés des bergers. Oto Mitzri, Amar lahem Moshe, Moïse leur a répondu, c'est pas moi qui vous ai sauvés, c'est cet Égyptien que j'ai tué qui vous a sauvés. Kohach amro lahem, et c'est pourquoi ils ont dit à leur père, Ish Mitzri, un homme égyptien, Kelomar, Migam lazecher vetilenu, Ish Mitzri sheava. Qui a fait que Moïse est venu chez nous? C'est l'Égyptien qui l'avait tué. Alors vous voyez comment le Midrash raconte l'enchaînement des causes et des effets. Alors c'est grâce à la persécution des Égyptiens que les Hébreux ont été sauvés. On se reverra donc mardi prochain pour la paracha de Vayera.
Jacob a demandé à Yosef tout de suite, il était malade, il lui a demandé tout de suite de le faire enterrer en Mitzraï. Alors que Yosef, il arrivera un temps